Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, bienvenue sur l'agenda littéraire de Canal Academy. Cette émission est la troisième que nous consacrons à Éric Faye. Les émissions précédentes nous ont révélé l'ennui d'un monde où rien ne peut arriver à personne. Un monde absurde, sans histoire et sans espoir, livré à l'indifférence et à la servitude. Sauf à se résigner, chacun y nourrit une secrète envie de fuir et de disparaître. Nous avons également rencontré des personnages livrés à l'obsession d'une mystérieuse présence, comme un étranger dans la maison ou une réplique d'eux-mêmes avec laquelle ils entretiennent des rapports ambigus. Ce double qui les hante, qu'ils ne peuvent ni chasser ni rejoindre, n'est peut-être que l'émanation d'un ailleurs dont ils ressentent le manque. Plus on lit Éric Faye, et plus il apparaît que cet ailleurs n'est autre que l'enfance, les clartés de l'enfance, dont il ne demeure plus que des lumières fossiles. Est fossile tout ce qui a traversé le temps et nous laisse une trace. Comment la prolonger, sinon par l'écriture ? Éric Faye a cette superbe formule : pour tracer un sillon droit, accroche ta charrue à une étoile. Dans la même page, il nous dit :
c'est une manière d'enchanter le monde, en puisant dans une source magique de l'imaginaire, en détournant l'âge d'or pour qu'il irrigue le présent.
L'âge d'or de l'enfance, une source plurielle et intarissable. Elle ne cesse d'alimenter une vie et une œuvre.
Mais, selon la technique du Nil, pour cacher d'où il vient, le merveilleux multiplie ses sources dans la haute enfance, après laquelle il formera le fleuve le plus puissant de la vie, grâce à la convergence de tous ses affluents, peur, mystère, éblouissement.
On parle volontiers de nostalgie au sujet d'Éric Faye. Non pas la nostalgie d'une autre époque, mais la nostalgie de ce que fut l'enfance. Le personnage de Solange Briat trouve les mots pour le dire.
Il fleurit des plantes étrangement vivaces à la clarté pâle des lumières fossiles. Quelle énergie, quels rayons nous parviennent des radiosources de l'enfance ? Je revoyais mon piano fantomatique et l'arbre foudroyé. Je revoyais la maison où s'étaient passées mes 7 premières années et j'accédais à des gisements inconnus.
Éric Faye n'en finira jamais de rechercher la porte de cette haute enfance, comme il la nomme. Il lui faudra, pour la retrouver, enjamber le temps ou bien l'espace, car, au niveau du langage, les deux se confondent. Nous avons déjà évoqué cet instant capital où, à l'âge de 4 ans, il en a pris conscience. On lui dit qu'il va partir en vacances dans le midi. Midi, cette heure du jour est donc aussi un lieu ? Le temps est convertible en espace ? Les mots peuvent avoir un double fond. C'était lors de l'été 68. Sa révolution à lui sera celle des mots. Et ces vacances-là vont rester liées à la chanson de Paul Naref, « Holidays, oh holidays ». Autre émerveillement fondateur, la télévision de son enfance. Il lui doit des mots énigmes, dont la musique précède le sens et qui tisse la trame d'un étrange langage. Paris Brune, Paris Sedex, Cognac Jet. Éric Faye découvre les mots avant de découvrir le monde. À chaque jour son Amérique, nous dit-il. Avec le mot kaolin, il découvre le ka. Découverte prémonitoire, elle annonçait déjà bien des entrées en résonance. Avec l'Asie de Kyoto et de Kurosawa, mais aussi avec le cas de Buzzati et le personnage du château de Kafka. tant de rencontres l'attendaient autour de cette majuscule, qu'il en viendra un jour à se demander
« Peut-on avoir en soi, nuageuse, diffuse, une mémoire de l'avenir ?»
Un thème d'où va surgir le double de Solange. Au passage, Éric Faye accroche cette citation.
« Il était tard lorsque K arriva. Le village était enfoui sous la neige. »
Vision reprise avec Takamaklan et avec Sauveterre. Sauveterre le vieux, le village natal, mais village déserté le temps d'un déminage. Le temps surtout d'héberger un fantasme.
Oui, j'aimerais, par extraordinaire, me réveiller dans un pays évacué. Il serait à moi, exclusivement. Aucun site, aucun appartement ne serait cadenassé.
Imaginez, même plus besoin d'un pass ou d'un double de clé pour entrer dans une maison interdite. Un sauveterre transgressé, un sauveterre intemporel, où tout peut arriver et où tout arrive, comme dans un rêve. Deux ombres s'y rencontrent, celle de Solange Brillat, la jeune femme en fuite, et celle de Marin Seriane, qui a sauté d'un train pour braver l'interdit, pour être clandestin dans son propre village. Double brèche dans le temps, le merveilleux s'y engouffre et avec lui l'enfance. Né en 63, Éric Faye a connu tout jeune les années 60. Elle résonnait encore des échos de la guerre. On parle devant lui de passage en zone libre, de faux papiers, de clandestins. Des propos qui prennent place dans l'imaginaire de l'enfant. Il en disposera plus tard pour formuler ses envies de fuite et de disparition.
Cela ne fait aucun doute à mes yeux. Il existe des réseaux de passeurs. Ils vous contactent un jour ou l'autre, ils vous abordent dans la rue, en vous tapant sur l'épaule et vous proposent leur service pour telle somme, vous retranchez de la vie courante, effacez toute trace, vous procurez une nouvelle identité, un sauf-conduit pour vous mener en zone libre.
À la ligne de démarcation, limite d'une zone libre, d'autres lignes vont venir se joindre, tout aussi mystérieuses. La maîtresse d'école parle un jour de la ligne d'horizon.
Elle dit la ligne d'horizon. L'enfant essaie de se représenter à quel endroit passe cette ligne, comme un chemin dans les forêts d'en face, plein sud. Le mot « horizon » lui plaît, mais lui résiste, car un tel chemin n'existe pas. Si un explorateur se rend là-bas pour vérifier, il est assuré de revenir bredouille ou de mauvaise foi. Mais si un Tartarin revenait des confins en disant qu'il a joué au funambule sur la ligne d'horizon, le monde perdrait de son aura de merveilleux.
Cette ligne se fait ligne de crête sur les sommets pyrénéens de Gavarnie. Ce sont eux que l'on retrouve dans l'un des premiers textes intitulés « Frontières ». À moitié cachés par les nuages, ils sont le bout du monde et le but du voyage, là où le pied du voyageur touche la montagne qui touche le ciel.
Il y a affluence, l'hiver va commencer. Après, tout sera difficile. Maintenant, attendez, nous vous préviendrons. Tous attendaient, ici, la même autorisation. Tous veulent monter au sommet pour voir l'autre côté.
Encore à l'âge où l'on attend les autorisations, l'enfant avait dû rêver d'escalader les monts de Gavarnie pour en découvrir l'autre versant. Toutes les zones d'accès réservées, tous les ailleurs et tous les au-delà qui formeraient un jour son univers d'écrivain, l'enfant les contemplait déjà sur des gravures. Très tôt dans sa tête, le jeune Éric Faye avait ressenti le besoin de pousser une porte par où s'évader.
Il partirait. C'était un mot d'ordre lourd d'impatience, dans lequel pointait déjà de l'inquiétude. Dans la torpeur de juin, le merveilleux apparaissait à l'enfant. C'était une porte entrebâillée tout au fond de la tête, qu'il n'avait jamais osé ouvrir grande, car il était écrit dessus « Sortie de secours ».
Autant d'intuitions précoces venues enrichir sa mythologie personnelle. La dernière chanson que Solange Brillat écoutera avant de disparaître est cette chanson de Brel dédiée à l'enfance.
Mon enfance passa de grisaille en silence de fausses révérences. en manque de bataille. L'hiver, j'étais au ventre de la grande maison.
Tout comme les trains de nuit, bien d'autres lignes sillonneront les récits d'Éric Faye. Ligne de partage entre l'Est et l'Ouest, frontières lointaines, et jusqu'à cette courbure de l'espace qui défendait l'accès au mont analogue. On sait combien ce mythe moderne est à la recherche d'une entrée possible dans un monde parallèle.
Gavarnie tient aussi du mont analogue, comme toutes ces entreprises radicales en cela qu'on doute qu'elles aboutissent. Et le plaisir ne vient pas de l'attente du succès, mais d'une sensation d'immersion devant une nature hors de portée comme la ligne d'horizon. Comme les Japonais et les Européens des siècles passés, ils jugent préférable de ne jamais monter trop haut, de peur de croiser les esprits de la montagne.
Tel est bien le merveilleux selon Éric Faye.
Je ne connais pas meilleure définition du merveilleux. Toucher du bout des doigts, un instant, ce qui fascinait hors de portée.
À écouter la chanson de Brel, on avait pu le deviner, tout un monde adulte allait bientôt menacer le merveilleux de l'enfance. Je devenais indien, pourtant déjà certain, que mes oncles repus m'avaient volé le Far West.
On n'efface pas sa marque de fabrique. On la porte sur soi. Je m'en suis aperçu jour après jour, par mon inadaptation au cercle dans lequel j'aurais voulu m'intégrer. Mais la marque de fabrique est aussi tyrannique que l'ADN.
Cette marque de fabrique, les biologistes la nomment d'un mot qui peut paraître barbare, l'épigénèse. Laissons le texte d'Éric Faye nous en donner sa vision.
Votre famille et votre milieu ne vous rejettent pas, c'est tout le contraire. Ils vous en serrent avec patience à votre insu. Les limites qui vous sont fixées, les barbelés sur la ligne d'horizon, ils ont tout prévu. Et vous ne remarquez rien.
Tout le double fond d'Éric Faye est là, dans une enfance trop éblouie, trop riche d'illusions. Il en a fait la matière de son ouvrage « Nous aurons toujours Paris ». La vie ne pouvait tenir tant de promesses. Mais sur les ruines de ses premiers émerveillements s'affirme un écrivain du merveilleux qui n'a jamais fini de venger les rêveurs. L'enfance lui demeure comme un fond inépuisable. Le regret de cet âge d'or et la faillite de ses rêves se changent en révolte. C'est encore par la voix de Solange Briat qu'il nous le dit.
J'aurais aimé que les lianes quittent les jungles et serpentent jusqu'à nous, envahissent les villes et enlacent les lampadaires, étouffent les panneaux indicateurs et que les publicités lumineuses prises au lasso s'effondrent toutes.
Là est le véritable Éric Faye, dans cette imagerie, dans le souffle d'un langage assigné à la métaphore. Dans une révolte prête à se retourner contre l'écriture elle-même, si la complaisance littéraire venait à menacer la sincérité du message.
Parler clair et abolir la ponctuation qui encadre les massifs de mots dans les jardins du bon parler à la française, pour hurler toute courtoisie, tout bel esprit aboli.
Peut-être une référence à Solers, à son livre « Paradis », écrit d'un bloc sans ponctuation, dans l'ininterrompu du langage. Une chose est certaine, l'œuvre d'Éric Faye prolonge cette fécondité littéraire que l'on situe de Baudelaire au surréalisme et que ponctuèrent bien des audaces et bien des révoltes. En l'été 64, les aînés s'en souviennent, Jean-Christophe Averty avait fait scandale à la télévision en montrant des bébés passer à la moulinette. Une séquence d'humour noir diversement appréciée. Mais peut-être aussi, sans le vouloir, une anticipation symbolique de ce qui guette les adolescents. La moulinette a broyé ce qu'il leur reste d'enfance. Dans le syndicat des pauvres types, un sergent du système nous l'explique, pour ne pas dire qu'il vend la mèche.
Voilà. Nous autres, lorsque nous rencontrons quelqu'un comme vous, comment vous dire, nous cherchons intuitivement quel enfant il a pu être dans la cour de l'école, avec encore en lui les espoirs, les émerveillements qu'il perdra un à un. Nous remontons avant la catastrophe, avant le moment où Mozart a été assassiné. Vous me suivez ?
Texte engagé au sens le plus large. À n'y chercher qu'un aimable divertissement, le syndicat des pauvres types décevrait. Il requiert de son lecteur une réserve d'amertume et de révolte. Ici, le double fond est sombre. Le pauvre type porte son image comme un fardeau. Il n'a pas su entrer par la bonne porte dans le Dallas des adultes. Son adolescence a été flouée. Mal réveillé de son rêve, il évolue dans un monde dont il n'a pas les codes. Un monde où chacun laisse chacun dans son monde. Jean Cocteau avait eu des mots pour ça.
On dit à ce jeune homme, « Mon beau convalescent, vous n'avez pas de barbe. Mettez-vous contre un arbre et comptez jusqu'à 100. » Lorsqu'il releva son visage, il n'eut pas la force de crier, car les uns étaient en voyage, les autres s'étaient mariés.
Les uns et les autres, tiens, les revoilà. Souvenez-vous du gardien de phare, les uns ne valent pas mieux que les autres. Dans la fable d'Éric Faye, le pauvre type se nomme Antoine Blin. Lorsqu'on vient le chercher, derrière son arbre, c'est pour se jouer de lui. On se le dispute pour le manipuler. Et lorsqu'il découvre la supercherie, lorsqu'il trouve encore des portes à ouvrir, elles donnent toutes sur le désert d'un immeuble vide. On ne franchit qu'une fois celle du désenchantement. Le personnage d'Antoine Blin souffre d'un mal-être qui lui ressort par tous les pores de la peau. Il est persuadé d'en répandre l'odeur, de sentir mauvais, même après une douche. C'est un peu, à rebours, le parfum de Suskind. Renaud lui dirait « Casse-toi, tu pute, et pas de ma bande !» Et le pauvre type n'aurait plus qu'à marcher à l'ombre. Aucun déodorant ne peut rien pour lui. Le problème est dans sa tête. Il lui gâche la vie et fait de lui une proie facile. Des bribes de chansons lui parviennent. Une chanson d'Aznavour dont il peut bien faire sa complainte.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore.
Entre une façon de dire et une façon de taire, le syndicat des pauvres types nous raconte en sourdine un monde étouffant où, je cite, le sommeil ne vient qu'aux morts, où le bus vous conduit comme par dérision, impasse du nouveau monde. Face à une invitation, un couple d'amis se défile.
Non merci, c'est gentil. Ils ne resteront pas pour dîner, ils ont tant à faire avant le décollage, et puis dîner par cette chaleur.
Eux, bien sûr, ils voyagent en avion. C'est un peu le dîner de cons, à rebours, car ici, c'est le con qui invite. Conformément au thème habituel, on lui laissera les clés, pour les plantes et pour l'aquarium. Mais entre une façon de rendre service et une façon de se venger, le pauvre type trouvera un moyen pas banal de marquer son territoire. On ne peut lire Éric Faye sans penser à toutes ces fugues d'adolescents, à toutes ces formes de renoncement qui laissent toujours leur entourage en mal d'explication, aux étranges vocations de ceux qui choisissent un destin hors norme, à tout ce qui exprime un refus de l'asservissement ou de la banalité. Mais peut-on jamais compenser la perte de l'enfance, tromper le rêve secret d'un retour aux sources ? Autant de questions qui trouvent une émouvante réponse dans l'œuvre d'Éric Faye. À chacun son sauve-terre le vieux. Écoutons l'écho que lui apporte un Francis Cabrel.
Il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu.
Merci de votre écoute. Bonne lecture d'Éric Faye. et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel agenda littéraire sur l'antenne de Canal Académie.
Il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a dit je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.